France Musique. Sous la couverture, Philippe Venturini, France Musique.
Bonjour, de a cappella à xylophone, de l'homme des cavernes à Lady Gaga, de Hildegard von Bingen à Ravi Shankar, sans bien sûr oublier Vivaldi, Mozart, Armstrong et Aznavour, c'est en moins de 80 pages, avec 3, 4 ou 5 illustrations par page, qu'Hélène Cao et Arnaud Merlin, mes invités, ont fait le pari un peu fou de présenter l'histoire de la musique, la grande histoire de la musique même. Destiné à un jeune public, cet ouvrage au ton léger mais aux propos très sérieux permet de découvrir aussi bien la chronologie, de distinguer les genres et les styles, de plonger au cœur d'un orchestre, de visiter un opéra ou un studio d'enregistrement et de faire le tour du monde. La grande histoire de la musique d'Hélène Cao et Arnaud Merlin avec des illustrations de Mathieu de Muison chez Bayard Jeunesse. Marc Minkowski à la tête de l'orchestre de l'Opéra National de Lyon, c'était le Ballet des Mouches, extrait d'Orphée aux Enfers, de Jacques Offenbach, un des ouvrages mentionnés dans la grande histoire de la musique rédigée par mes invités Hélène Cao et Arnaud Merlin. Bonjour Hélène Cao.
Bonjour Philippe et joyeux Noël.
À vous également, vous êtes musicologue, vous enseignez au conservatoire du 13e arrondissement et au conservatoire rayonnement régional de Paris et vous étiez venu nous présenter les 600 mots de la musique parue chez Biodo. Arnaud Merlin, bonjour.
Bonjour Philippe.
Les auditeurs de France Musique vous connaissent bien évidemment, vous présentez le concert du mercredi soir et le dimanche soir, vous intervenez dans le carrefour de la création et vous êtes également le programmateur des concerts de jazz de Radio France. Donc à quatre mains, avec le crayon et les couleurs de Mathieu de Muison, vous avez donc mis au point cette grande histoire de la musique. J'ai dit en introduction, un ouvrage qui s'adresse à un jeune public, mais en fait peut-être pas que. Hélène Cao.
C'est comme Tintin, c'est à partir de 7 ans, il vaut mieux savoir lire, mais à la limite des enfants plus jeunes, parfois le parcours s'amuse avec les images, avec l'aide des parents pour leur donner quelques petites indications. Mais effectivement, comme on brasse très large et que notre but c'était d'aborder toutes les musiques, peut-être que le lecteur plus connaisseur de jazz sera heureux de découvrir des petites choses sur la musique classique et inversement.
Oui, c'est ça, parce que la grande histoire de la musique, elle est effectivement très grande parce qu'elle englobe tous les genres. C'est pas seulement la musique classique, Vivaldi, Beethoven, Offenbach, mais aussi le jazz, le rap, la chanson, le rock, tous les genres. Arnaud Merlin, pour vous, dès le départ, il était évident qu'il fallait que ce genre d'ouvrage fût-il destiné à un jeune public, soit le plus large, le plus universel possible ?
Moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est difficile de faire une histoire de la musique dite savante, dite occidentale uniquement. Oui. Alors, particulièrement pour un jeune public, parce que c'est vrai qu'on trouve quelques attaches quand même dans le jeune public avec les musiques d'aujourd'hui, avec les musiques du monde entier qui sont vraiment accessibles maintenant de manière très, très facile. Encore faut-il les présenter de manière assez ludique et puis assez diversifiée, que ce ne soit pas toujours les mêmes que l'on mette en avant.
Et il y a notamment la place des femmes qui est importante, nous y reviendrons tout à l'heure. Mais alors, en élargissant autant le spectre et en ayant quand même un format relativement restreint, et puis il fallait compter également pour les illustrations, la place réservée aux illustrations, comment avez-vous procédé l'un et l'autre? Vous avez fait chacun de votre côté une liste, des tableaux, comment vous avez procédé pour déjà faire la maquette de ce livre?
On était très, très gourmand. D'ailleurs, je l'avoue un peu prise ce matin, c'est hier soir, excusez-moi Philippe. Mais on était très gourmand, donc on voulait en mettre beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ouais. Et puis évidemment, on a réduit aussi en travaillant avec notre éditrice, et puis la graphiste, et puis l'illustrateur. Et ce qu'il fallait évidemment arriver à faire, c'est avoir des textes assez concis où on dise quand même quelque chose. C'est pas seulement une légende de l'illustration. Bien sûr. Chaque fois, on essaye de dire quelque chose, ou sur l'œuvre, ou sur le compositeur, ou sur le genre musical, ou sur les termes musicaux. Et puis on a énormément fait d'aller-retour entre nous deux déjà, et puis avec l'éditeur, avec l'illustrateur, et ça nous a pris pas mal de temps en fait. Hein. C'est bien tombé pendant le confinement.
On a commencé à travailler beaucoup avec l'éditrice chez Bayard, Marie-Claude Réau, pour élaborer le synopsis de ça. Mmh. Donc là, c'était décidé comment on chapitrait déjà le livre. Il était pour nous évident qu'on n'allait pas faire seulement une histoire de la musique chronologique, parce que pour bon nombre de musiques, ça n'a absolument aucun sens. Mais de fait, de proposer pour commencer une petite chronologie de la musique occidentale et de faire des chapitres. Il y a un chapitre sur les musiques du monde, un chapitre sur la richesse des musiques du XXe siècle, des choses comme ça. Donc on a décidé des grands chapitres du livre. Puis à l'intérieur de ça, pour chaque double page est consacrée à un sujet particulier. Donc, quel sujet on allait y mettre. Puis petit à petit, voyez, on resserre l'entonnoir et de décider à l'intérieur de chaque page quels étaient là, les modules, les sujets que l'on abordait.
Un extrait de la cantate Le sommeil d'Ulysse d'Elisabeth Jacquet de Laguerre par Isabelle Desrochers, soprano, François-Nicolas à la flûte et l'ensemble Les Voix Humaines. Hélène Cao, il y a un cartouche consacré à Elisabeth la Surdouée, écrivez-vous, sur cette double page qui s'intitule L'Europe baroque, donc à côté de Bach, Handel, Lully et d'autres compositeurs. Elisabeth Jacquet de la Guerre, qui figure également dans une chronologie qui est en tout début d'ouvrage. Je l'ai dit tout à l'heure, la place consacrée aux femmes n'a pas été minimisée ni oubliée.
Effectivement, il nous semblait tout à fait indispensable de faire passer ce petit message du fait que des grandes créatrices, de grandes musiciennes ont existé par le passé. Et on en a quelques exemples, au Moyen-Âge, avec Hildegard von Bingen, par exemple. Alors, c'est pas un ouvrage idéologique du tout. Nous ne sommes pas là pour militer, de sortir les pancartes. Mais pour les jeunes enfants, et notamment les petites filles, ça peut être inspirant et agréable de se dire que, tiens, on a des figures comme ça qui montrent que des femmes aussi peuvent être créatrices, même dans des temps très reculés.
Oui, jusqu'à Beyoncé pour la musique populaire ou Olga Neuwirth pour la musique savante qui est citée dans l'ouvrage. C'est vrai que c'est bien de pouvoir s'identifier.
Oui. Mais à notre époque, c'est plus évident, mais de sortir ces figures du passé un petit peu oubliées, de les sortir de l'oubli, ça nous semblait être un joli petit message.
Bien sûr. Alors, à côté de ce message, il faut évidemment, on ne peut pas oublier les grandes figures, les grands noms. Mais alors, comment est-ce qu'on fait la sélection? Comment est-ce que vous avez sur quels critères vous êtes-vous basé?
Je crois qu'il n'y a pas vraiment de critères. Après, il y a des noms qui s'imposent. C'est sûr que Beethoven, Mozart, Bach ou Charlie Parker dans le jazz, par exemple, ou Jimi Hendrix.
Difficilement faire ça, bien sûr. Bon. Ouais.
Mais c'est vrai qu'on n'a pas voulu être exhaustif du tout. On voulait montrer un certain nombre de choses qui soient révélatrices ou bien d'un genre, ou bien d'une tendance, ou bien d'un fait historique. Mais l'exhaustivité, de toute façon, c'était pas possible.
Donc, on n'est pas vers ça. Et alors, pour le jazz, quelle a été votre idée directrice? Parce qu'il y a à la fois il y a un petit peu d'histoire, mais aussi la diversité des genres qui sont abordés. Difficile en quelques pages de résumer.
On pourrait faire la grande histoire du jazz, pourrait faire un entier. C'est vrai que là, il y avait d'une part le tuilage avec le début du XXe siècle dans la musique dite occidentale savante, et puis il y avait aussi montrer que le jazz et le blues étaient à l'origine de toute une série de musiques populaires qui font encore florès aujourd'hui. Donc c'était plutôt ça. C'est-à-dire que l'histoire du jazz, elle est assez réduite dans cet ouvrage, mais on montre vraiment le début de toute cette extraordinaire explosion des musiques populaires à partir du début du XXe siècle.
Et puis comment elle a pu également avoir une influence sur la musique dite classique.
Se renouveler toujours, parce que c'est l'histoire du jazz, on a tendance à le dire, qu'en un siècle, elle a fait à peu près le chemin que la musique occidentale a fait en quelques siècles, en cinq ou six siècles. Et ça s'est renouvelé très vite.
Ouais. Et Hélène Cao, en prenant justement de la hauteur sur cette histoire de la musique, j'ai l'impression que vous avez voulu également montrer comment, en fait, le classement par genre, dire classique, jazz, avait quand même parfois ses limites et que les frontières étaient souvent très perméables.
Oui, exactement. Alors, pour revenir cependant sur la question du choix des sujets et des modules, nous avons également été amenés à réfléchir à ce qui était explicable assez aisément à un jeune public. Or, il y a parfois des choses que l'on peut juger importantes, mais qui seront quand même difficilement explicables sans non plus simplifier outrageusement le propos. Il fallait également réfléchir à une autre chose, c'est que le sujet soit illustrable, que ce soit quelque chose d'inspirant. Alors, quelqu'un qui a une imagination aussi foisonnante et fantaisiste que Mathieu de Muison se sort de tout, mais tout de même, il y a des choses qui sont plus ou moins parlantes et il fallait réfléchir également à ça.
Alors là, jusqu'à présent, on a un peu parlé d'histoire de la musique, mais les pages de votre ouvrage, donc la grande histoire de la musique, ne se focalise pas uniquement sur la chronologie et le classement par genre, mais il y a également, on visite un opéra, on apprend à distinguer les différentes zones géographiques d'un opéra, on est même dans un studio d'enregistrement, on évoque les différents métiers de la musique. Là, vraiment, c'est la focale est vraiment très très large, c'est vraiment un très très grand angle que vous avez choisi. Carlo Merlin.
Oui, l'idée c'était de profiter justement du talent de l'illustrateur, et je pense que quand on est un enfant de 7, 8, 9 ans, on adore se plonger dans ce genre de dessin très large, ces doubles pages sur l'opéra par exemple, où on voit toute la disposition du public, la disposition de la scène, ou la page sur l'orchestre. Alors là, ça a été du boulot, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas une disposition unique dans l'orchestre symphonique, mais il fallait quand même que ça soit assez proche de la réalité. Et je pense que pour les enfants, c'est très amusant.
Alors justement, je rebondis sur ce que vous disiez, Hélène Cao. Vous avez dit que vous avez aussi choisi des sujets qui étaient illustrable, effectivement, la présentation d'un orchestre ou des instruments, puisqu'il y a plusieurs instruments qui sont détaillés, ont participé au choix donc des sujets que vous alliez retenir dans ce livre.
Oui, dans certains cas, c'était un petit peu, c'était quelque chose auquel on réfléchissait. Cependant, ce qui était assez amusant, c'est que quand on recevait le croquis du dessinateur, il était parfois parti dans une direction qu'on n'avait pas du tout imaginée et pas envisagée. Et c'était vraiment assez amusant. C'était une découverte permanente. Alors, on ne s'est pas vu. Il faut savoir que Mathieu Mison, on ne l'a encore jamais rencontré, puisque tout le travail sur ce livre s'est fait pendant les confinements, reconfinements successifs, les couvre-feux qui n'étaient vraiment pas très propices au voyage et aux rencontres.
Il n'habite pas Paris, mais on va se rencontrer.
Voilà, il n'habite pas Paris, il habite à Marseille. Mais c'était extrêmement, du coup, amusant pour nous aussi de découvrir finalement le résultat de son imagination.
En 1945, Charlie Parker enregistre Coco, chef-d'œuvre du jazz bebop, peut-on lire sur la double page qui ouvre votre livre, une chronologie de l'histoire de la musique qui commence à la préhistoire, qui se termine en 2020 avec Billie Eilish qui remporte les 5 Grammy Awards. Hélène Cao, le choix de terminer cette chronologie donc qui commence par la préhistoire, par Billie Eilish.
Alors là, c'est assez amusant parce qu'en fait, à l'origine, dans son texte, parce que c'est Arnaud qui avait écrit le petit module sur les chanteurs les plus récents, il ne mentionnait pas Billie Eilish, il avait, allez, disons-le, mentionné Maria Carey. Et le dessinateur nous a envoyé son dessin avec... on voyait bien que c'était Billie Eilish, et surtout le titre de son premier tube, Ocean Eyes. Et là, on s'est dit, mais finalement, ça pourrait être une très bonne idée de mentionner une jeune chanteuse de notre temps qui a finalement, qui est à peine plus âgée que les plus jeunes de nos lecteurs. Donc, les choses ont parfois fonctionné aussi dans ce sens-là. Il y a eu un dialogue par images et textes interposés entre le dessinateur et nous.
Mmh. Arnaud Merlin, le choix de Coco dans cette chronologie vraiment très très restreinte, pourquoi ?
Oh bah c'est un des chefs-d'œuvre de Charlie Parker, et puis en plus Coco c'est assez emblématique puisque c'est un démarquage sur un thème plus ancien qui s'appelait Cherokee, donc ça fait le pont entre le jazz classique et le jazz moderne, même si on l'explique pas dans la chronologie, mais c'est que si on veut creuser ensuite la connaissance du jazz et du jazz bebop en particulier, c'est un des titres qu'il faut écouter. Donc c'était bien de le mentionner, c'était un repère dans l'histoire.
Et dans cette histoire du jazz que vous avez évidemment dû condenser et des autres genres, je pense aux musiques extra-européennes. Comment avez-vous procédé ? Parce qu'on j'ai dit en introduction qu'on faisait le tour du monde avec votre livre. C'est vrai qu'on passe par le gagaku, la musique chinoise, la musique indienne. Là, c'est pareil. Comment est-ce qu'on dessine une carte en si peu de pages ?
Il y a beaucoup de musiques qui n'y sont pas.
Bien sûr, oui,
après,
inévitablement.
C'est aussi affaire de goût. Par exemple, on cite le gamelan en Indonésie, on cite le gagaku japonais, effectivement, peut-être que c'est aussi nos goûts à nous, mais je pense qu'on a essayé de représenter sur chaque continent un échantillonnage de ce que l'on pouvait trouver et qui soit aussi illustrable avec des beaux instruments, avec des pratiques musicales très très différentes, certaines très savantes, d'autres beaucoup plus populaires. Il y avait l'embarras du choix en fait.
Et vous n'avez pas joint de recommandations discographiques ou d'écoute, mais il y a un QR code qui renvoie à France Musique Junior.
Oui, absolument. On est partenaire évidemment avec notre chaîne préférée France Musique. Donc il y a ce QR code qui permet d'aller un petit peu plus loin. L'idée c'est vraiment un livre illustré et dans lequel on peut apprendre beaucoup de choses. C'était pas forcément de renvoyer à des choses très très précises en termes d'écoute.
C'était 22h à peine ce vendredi-là. C'était veilleux de Noël et pour fête et saint. Il s'en allait chez Madeleine près du pont de l'Allemagne. Elle aurait eu tant de peine qu'il ne vienne pas fêter Noël. Fêter Noël en smoking de velours vert, en col roulé blanc. Et le cœur en bandoulière, marchant à pas lents, à pied il longe la Seine tout en sifflotant. Puisqu'il allait chez Madeleine, il avait bien le temps. Charmant Noël, charmant Noël. C'était 22h à peine ce vendredi-là. C'était veille de Noël et pour fêter ça, elle s'en allait chez Jean-Pierre près du pont de l'Allemagne. Il aurait eu tant de peine qu'elle ne vienne pas fêter Noël, fêter Noël. Bottes noires souveraines et gantées de blanc, elle allait pour dire je t'aime tout en chantonnant. À pied le long de la Seine, marchant d'un pas lent, puisqu'elle allait chez Jean-Pierre, elle avait bien le temps. Charmant Noël. Or voilà que sur le pont ils se rencontrèrent. C'est de là qu'ils s'en venaient d'un chemin contraire. Lorsqu'il la vit si belle, des bottes aux gants, il se sentit infidèle jusqu'au bout des dents. Elle aima son smoking vert, son col roulé blanc, et frissonna dans l'hiver en lui souriant. Bonsoir, je vais chez Jean-Pierre près du pont de l'Allemagne. Bonsoir, j'allais chez Madeleine, c'est juste à deux pas. Et ils allèrent chez Eugène pour y fêter ça, sous le sapin de lumière quand il l'embrassa. Heureuse, elle se fit légère au creux de son bras. Au petit jour, ils s'aimèrent près d'un feu de bois. Joyeux Noël, joyeux Noël. Mais après une semaine, ce vendredi-là, veille de l'année nouvelle, tout recommença. Il se rendit chez Madeleine, l'air un peu sournois. Elle se rendit chez Jean-Pierre un peu tard, ma foi. Bien sûr, il y eut des scènes près du pont de l'Allemagne. Qu'est-ce que ça pouvait leur faire à ces amants-là, eux qui avaient eu un Noël comme on n'en fait pas. Mais il est bien doux quand même de rentrer chez soi après Noël.
Joyeux Noël 2 et par Barbara. Barbara qui figure sur la couverture de la grande histoire de la musique d'Hélène Cao et Arnaud Merlin, mes invités. Au chapitre piano, orgue et compagnie, on voit qu'à la fois il y a un souci du détail, de la réalité des instruments, mais également beaucoup de fantaisie, vous l'avez un peu évoqué, Hélène Cao. Le facteur de piano, on voit effectivement un piano droit, mais assis à Kelly Fourchon, un facteur avec une hotte qui déborde de courriers, et puis l'orgue positif qui est transportable, tellement transportable qu'on peut le porter sur son dos. Donc il y a un équilibre entre la fantaisie et la réalité.
Oui, la fantaisie, Merlin. C'est vrai que je pense que dans chaque double page, on peut vraiment s'amuser. Et puis en même temps, on a beaucoup fait d'échanges avec Mathieu Demuison et avec notre éditrice pour que les instruments soient dessinés de manière réaliste et proche quand même de ce que c'est dans la réalité. Oui,
oui, le clavecin ressemble vraiment à un clavecin. Et même s'il y a un chapitre, ils étaient bizarres, ils sont branchés, on voit des instruments assez fantaisistes qui ressemblent tout à fait à ce à quoi ils devaient ressembler. Hélène Cao, justement, c'est à base de photos que l'illustrateur Mathieu Demuison...
Oui, on lui a fourni beaucoup d'illustrations pour qu'il puisse quand même s'en inspirer, ce qui ne nous a pas empêché après de l'enquiquiner sur des détails. Par exemple, le piano de l'époque de Mozart, on lui a demandé de retirer les pédales qu'il avait mises, parce que non, à l'époque de Mozart, c'était un peu trop tôt. Et de fait, quand il a rendu un dessin avec Liszt au piano, il n'y avait plus de pédales au piano, et là, on lui a demandé d'en remettre. Alors peut-être qu'un enfant ne se rendra peut-être pas compte de l'existence ou non des pédales là sur le dessin, peut-être qu'il ne comprendra pas pourquoi, mais c'est une façon de faire passer le message, comme ça, de façon un peu subliminale, de faire passer des informations en tout cas.
Arnaud Merlin, la musique classique de demain, c'est une double page, à peu près au milieu de votre livre. Là, c'est pareil. Qu'est-ce qu'on veut montrer? Vers quel type de musique on veut orienter ou pas, ou recommander à ces jeunes lecteurs?
Parmi le panorama des musiques d'aujourd'hui, il y a aussi la continuation des compositeurs qui existaient dans les siècles qui ont précédé. Donc, et puis montrer qu'il y a une grande diversité de propositions, la musique électroacoustique, le travail de studio, le travail à la table. Les femmes compositrices aussi qui sont présentes. Et oui, c'était important. En tout cas, moi, j'y tenais à ce qu'il y ait cette double page pour la musique classique de demain.
Ouais. Hélène Cao, puisque vous enseignez, donc vous connaissez parfaitement le phénomène de transmission, c'est quelque chose qui vous a, j'imagine, accompagné du début à la fin de ce projet, de savoir, il faut qu'on fasse passer des choses, à la fois intéresser le lecteur, mais aussi l'instruire quelque part.
Oui, exactement.
Tout en le divertissant.
Et susciter aussi sa curiosité, parce que là, certes, il n'y a pas de CD pour accompagner ce livre-là, mais il y a suffisamment de titres d'œuvres ou de noms de musiciens pour que de nos jours, avec
Internet,
les outils que l'on connaît, il soit facile, éventuellement, avec un petit coup de pouce des parents, d'aller chercher Et je l'espère que nos jeunes lecteurs auront envie de prolonger la lecture du livre par des écoutes, parce que c'est quand même le but.
On ne saura trop leur recommander. Merci Hélène Cao et Arnaud Merlin. Je rappelle le titre de votre livre, La grande histoire de la musique, avec des illustrations de Mathieu Demuison. C'est vient de paraître chez Bayard Jeunesse. Il y avait aujourd'hui à la réalisation Laurent Lefrançois, la technique Olivier Dupré, attaché de production Annick Aumier. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, excellente journée et excellente semaine à l'écoute de France Musique.
À réécouter sur francemusique.fr.